Bien, bonjour à tous, soyez bénis. Merci au Seigneur pour ces moments de louange que nous avons pu partager ensemble, ces moments où nous avons pu lui dire ô combien nous sommes heureux de le connaître, ô combien nous sommes heureux d'être avec lui, et ô combien nous sommes heureux de réjouir son cœur de Père. Car c'est cela, lorsque nous le louons, notre désir, c'est vraiment de réjouir son cœur de Père. Amen. Alors, première question. Croyez-vous que la Bible est vraie? Super. Que toute la Bible est vérité? Super. Très bien. Car aujourd'hui, nous allons y plonger abondamment nos regards. Vous êtes d'accord? Alors, on y va. Alors donc aujourd'hui, je vais poursuivre sur le thème proposé cette année par notre Église. Mais au fait, vous vous souvenez du thème proposé cette année pour l'Église? C'était « Suivez-moi, suivez Jésus ». Et nous avons vu, la dernière fois que nous avons traité de ce sujet, quatre attitudes, c'était dans quelques semaines, quatre attitudes pour bien suivre Jésus. Rester connecté à lui, à son écoute, vous vous souvenez? Ensuite, accepter d'agir avec lui selon son plan et non le nôtre. Accepter de se mettre en mouvement avec foi, confiant en lui. Et accepter de nous laisser sonder par lui et façonner par Saint-Esprit. C'était les quatre attitudes que nous avions vues. Alors, accepter d'agir avec Jésus ne serait-ce pas, dit autrement, de devenir ouvrier avec lui. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 3:9, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, des collaborateurs de Dieu. Amen. Et de quoi a besoin un bon ouvrier ou collaborateur avant de se mettre en mouvement? D'être préparé, oui. D'avoir des directives claires. Un bon ouvrier qui n'a pas de directives claires, ce ne sera pas terrible. Et il a besoin aussi d'outils efficaces. Parce qu'un bon ouvrier sans outils, ça ne marche pas non plus. Ok ? Et Jésus nous a donné tout cela. Lisons ce que Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, 15 à 21. « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis, que tu es Pierre, Pétros, le petit caillou, et que sur ce rocher, le rocher qu'est Jésus, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » C'est la version second 21. Donc ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. On voit ici les outils que Jésus a donnés à Pierre, les clés du royaume des cieux. Et à quoi elles serviront? À lier, délier. Quelle confiance de la part de Jésus quand même, hein. Il fallait qu'il ait une drôle de confiance en Pierre, hein. Et cette autorité qu'il confère à Pierre, Jésus veut aussi la donner aux autres disciples, en s'adressant à eux un peu plus loin, dans Matthieu 18:18, toujours dans la version second 21, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Il reprend la même parole, le même message que celui qu'il a donné à Pierre. Mais ça, c'est adressé à l'ensemble des disciples, aux autres disciples. Donc aujourd'hui, à qui? À nous. Membres de l'Église de Christ, que nous sommes. C'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus, Fils de Dieu, à son sacrifice, rédempteur sur la croix, à sa résurrection, qui ont fait confesser Jésus de leur bouche, et qui ont concrétisé cet engagement au travers des eaux du baptême, comme nos frères et sœurs la semaine dernière. Ce fut d'ailleurs un excellent moment, où la présence de Dieu était visiblement là. Merci Seigneur. Et cette parole est pour nous aujourd'hui. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été préalablement délié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été préalablement délié au ciel. À ce sujet, j'ai retrouvé une pensée d'un missionnaire chrétien évangélique qui a écrit au sujet de cette parole, c'est Reinhard Bonnke. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit, c'est assez étonnant. Il met « Soyons réalistes. Soit la foi chrétienne est surnaturelle, ou elle n'est rien du tout. Jésus était, et est encore aujourd'hui, un Jésus surnaturel, œuvrant de manière surnaturelle. Cela crée une église surnaturelle, au travers d'un évangile surnaturel, dans une Bible surnaturelle. Il y met « Enlevez le miraculeux et vous enlevez la vie même de la foi chrétienne. » La foi chrétienne sans miraculeux est sans vie. L'Église devient alors une forme de société avec de simples principes éthiques, un club social, si vous enlevez le surnaturel, alors que sa destinée à l'Église est en fait d'être un système de transmission de la puissance de Dieu dans ce monde sans force. Alors veillons à ce que l'Église ne soit pas un simple club social, mais qu'elle soit vraiment l'Église de Christ, afin de transmettre la puissance de Dieu dans ce monde sans force. Amen. Alors, avant de parler des clés du royaume, qui sont les outils que Jésus nous a donnés, essayons de comprendre ce qu'est le royaume des cieux et ce que signifie lier et délier. Tout d'abord, sachons que le royaume des cieux est synonyme de royaume de Dieu. Ces deux termes sont employés dans la Bible pour désigner la même entité. C'est une question de culture de la part des auteurs. Matthieu parle du royaume des cieux. Quand pour la même chose, Marc, Luc et Jean parlent du royaume de Dieu. Ceci dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est tout l'espace, les cieux et la terre, où Dieu règne. C'est son royaume. Et qui est régi par ses règles, fondement de sa justice. Et où s'applique par conséquent sa volonté, exprimée par sa parole. Je répète, le royaume de Dieu, c'est l'espace, tout l'espace des cieux et la terre, où Dieu règne, c'est son royaume, qui est régi par ses règles, fondement de sa justice, et où s'applique par conséquent sa volonté, exprimée par sa parole. Et il y a un texte qui confirme cela. C'est 1 Chronique 29, 10, dans la Nouvelle Française Courant. « C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat de la majesté. » Oui, dans les cieux et sur la terre, tout t'appartient. Dans les cieux et sur la terre, tout appartient. Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. Amen. Et comment plus précisément ? le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Les gens ne pourront pas dire « Venez ici, il est là !» Car notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous. Le règne de Dieu a déjà commencé, il est en nous. Dieu règne sur les cieux, sur la terre, et son règne est en nous, dans notre cœur. Littéralement, donc, au dedans de vous, c'est-à-dire en ceux qui croient en Jésus. Ainsi donc, le règne de Dieu, on le voit, s'exerce dans les cieux, sous la terre, dans le cœur de l'homme. Il est en nous. Et il est donc avant tout spirituel. On ne peut entrer dans ce royaume que par la nouvelle naissance. Selon ce que Jésus enseigne dans Jean 3, 5 à 6, à moins de naître, à moins donc de renaître, naître de nouveau, d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Jean 3, 5, 6, dans la parole vivante. Donc je répète, à moins de renaître, naître de nouveau, d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Donc chaque chrétien n'est pas seulement enfant de Dieu, il est aussi un sujet du royaume, il est aussi citoyen des cieux. C'est Philippiens 3:20 qui nous le dit. Un cœur né de nouveau appartient déjà par l'esprit au royaume des cieux, tout en ayant les pieds sur terre. Mais vous rendez compte? Né de nouveau, nous appartenons déjà au royaume des cieux. Amen. C'est quand même quelque chose d'enthousiasmant, ça, non? C'est plus qu'enthousiasmant, c'est... Alors maintenant que nous appartenons à ce royaume, qu'est-ce que cela implique pour chacun de nous? Eh bien, d'être ouvrier avec Dieu, collaborateur de Dieu, avec un objectif principal, car on a un objectif principal, qui est celui de Dieu. Et quel est l'objectif principal de Dieu? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. C'est bien l'objectif principal de Dieu. Et Jésus dira également, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création, dans Marc 16, 15. Donc les deux versets là sont totalement liés l'un à l'autre. Donc c'est la mission de l'Église. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je dirais même, c'est le combat de l'Église, donc le nôtre. Et pour cela, Jésus ne nous a pas laissés sans rien, il nous a donné des outils. Alléluia. Les outils, on les a. On sait ce qu'on a à faire, maintenant, les directives, on les a, et il nous donne des outils. C'est quand même bien, ça. Hein, il n'a rien oublié. Il a dit, vous êtes des ouvriers, ok, je vais vous équiper. Donc des armes, d'abord à Pierre, puis à ses disciples. Donc à nous-mêmes, aujourd'hui, ses disciples. Je vous donnerai, je te donnerai, les clés du royaume des cieux, ce sont nos outils. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel. Alors d'abord, est-ce que nous comprenons bien ce que lier et délier veut dire dans le contexte de l'époque ? Dans le langage des rabbins, à l'époque, lier et délier signifiait interdire et permettre. Mais on peut dire aussi, ça peut dire ouvrir et fermer. Interdire et permettre. Il semble donc que Jésus voulait conférer à Pierre, par cette parole, l'autorité de déclarer ce qui était conforme ou non à la parole de Dieu. Et on voit dans tout le cheminement de Pierre, au cours dans les Actes des Apôtres, hein, c'est ce que Pierre a fait. Ce pouvoir à Pierre n'a donc rien à voir avec un pouvoir personnel d'absolution des péchés, comme certains ont pu le penser, puisqu'il est clairement écrit dans Marc 2, 7 à 10, que seul Dieu et Jésus ont ce pouvoir. Ceci dit, comme pour Pierre, notre part est donc d'annoncer, semer la bonne nouvelle, semer la parole. C'est notre rôle d'ambassadeur pour Christ, selon 2 Corinthiens 5, 20. Et la part du Saint-Esprit est de travailler le cœur de celui qui reçoit cette parole. Notre part, nous, est d'annoncer, de semer la parole. Point. Et ensuite, la part du Saint-Esprit est de travailler le cœur de celui qui la reçoit. De convaincre, comme dit Jean 16, 8. De convaincre celui qui la reçoit, de faire germer et croître ce qui est semé, c'est son pouvoir, pas le nôtre. Nous, parfois, on veut même aller au-delà. On veut essayer, on va faire croître. Non. Notre part est de semer. C'est déjà beaucoup comme boulot. Hein? Et après, faisons confiance au Saint-Esprit, à son œuvre, qui lui sera de faire, de convaincre celui qui reçoit cette parole. Alors maintenant que l'on comprend un peu mieux ce que signifie lier et délier, parlons des clés que Jésus nous a données. Données à Pierre, bien sûr, puis à nous. Il faut d'abord savoir que le symbole des clés était à l'époque lié à l'exercice de pouvoir. Celui qui les possédait détenait l'autorité. Ainsi, en nous confiant les clés, Jésus nous fait une confiance immense, comme il l'a fait à Pierre. Il fait de nous ses ambassadeurs, comme le dit la parole. Je suis un petit peu en avance. Comme le dit donc la parole. 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous avons l'autorité d'agir au nom de Jésus. Nous avons l'autorité, vous rendez compte, avec les clés du royaume qu'il nous a données. Alors, quelles sont-elles, ces clés? Alors, écoutons la parole, lisons la parole qui est là. C'est Apocalypse 12, versets 10 à 11, toujours dans la seconde 21. « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, qui est donc bien l'objectif numéro un de Dieu, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu » et l'autorité de son Messie, Jésus. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qu'ils accusaient jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. La parole dont ils ont témoigné, dit la Nouvelle Française Courant. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. La parole dont ils ont témoigné. Donc là, on voit tout de suite les clés de la victoire dans notre lutte. Quelles sont-elles? Le sang de l'agneau, Jésus, et la parole de Dieu, avec lesquelles les frères et sœurs ont vaincu, c'est-à-dire lié Satan, et par lesquelles le salut est arrivé, c'est-à-dire que des âmes ont été déliées. Amen. Et je rappelle donc, cette lutte est spirituelle. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Donc on n'a pas lutté contre les hommes, hein, c'est dans les lieux célestes, contre les esprits du mal, contre ce monde de ténèbres. Alors Pierre, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et en possession de ses clés, ben il se met à proclamer l'évangile de Christ crucifié, autrement dit la parole, l'évangile, de celui qui avait donné son sang, Christ crucifié. Et il vit ce jour-là 3000 personnes se repentir et trouver le salut par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il vit ce jour-là 3000 personnes se repentir et trouver le salut par la puissance du Saint-Esprit. Puis les apôtres sortirent et utilisèrent l'autorité que confèrent ces clés. Les morts ressuscitèrent. Les sourds, les aveugles, les paralysés furent complètement guéris. Des multitudes se tournèrent vers Christ. Et quelque chose de nouveau vit le jour dans le monde, l'Église de Jésus, nous aujourd'hui. Amen. Alors que dit la parole de ces clés lorsqu'elles sont utilisées? Parce qu'effectivement, maintenant qu'on a les clés, des clés, ça s'utilise. Il ne faut pas les garder à la ceinture. Commençons par le sang de Jésus. Qu'avons-nous reçu par le sang de Jésus? Je me limiterai donc aujourd'hui à quelques versets qui sont donnés à ce sujet. Ce sont des promesses qui renferment en elles-mêmes tout l'amour, le plan et la puissance de Dieu. 1. Nous avons le pardon des péchés, la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 7. Ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. C'est quand même extraordinaire ça. Le sang de Jésus est précieux, mais non seulement il est précieux, il est impérissable, il est éternel. Autre point, le sang de Jésus nous rend capable de servir si nous le décidons. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, le Saint-Esprit, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous le serviez, que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Afin que vous serviez le Dieu vivant. En effet, dans le salut, donc, il y a deux aspects. Le pardon des péchés, et le service avec Dieu. La vie chrétienne ne se résume pas à une remise de dette. Elle va bien plus loin que la facture payée de nos péchés. Même si le rachat est déjà une œuvre extraordinaire. Mais elle va jusque afin que vous serviez le Dieu vivant. Grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus aussi. Par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos peurs, de nos purs. Hébreux 10, 19. Vous rendez compte quand même? On a une libre entrée dans le sanctuaire. Vous imaginez cela? Une libre entrée dans le sanctuaire, le lieu très saint. C'est là où Dieu réside. Mais vous imaginez? Là où Dieu réside, on a une libre entrée. Ça nous appelle à une profonde humilité, à une reconnaissance infinie, et à nous approcher dignement de Dieu, revêtus d'un vêtement non souillé, et avec des mains pures et un cœur purifié. On ne rentre pas dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, avec des sabots crottés, ni avec un vêtement taché. On y rentre avec un vêtement non souillé, des mains et un cœur purifiés. Veillons-y. Par le sang de Jésus, nous avons aussi la paix. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, Dieu. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, Jésus, par le sang de la croix, Colossiens 1, 19, 20. Donc nous avons la paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu grâce au sang de Jésus. Je répète, nous sommes réconciliés avec Dieu grâce au sang de Jésus. Et enfin, nous avons la victoire sur l'adversaire grâce au sang de Jésus. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs. Ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus. Apocalypse 12, 10, 11. Ils l'ont vaincu, l'adversaire, grâce au sang de Jésus. Donc utilisons cette clé. Tout ce que Jésus a fait sur terre, sa vie, sa mort, sa résurrection, l'ont été pour que nous puissions être restaurés dans la position initiale que Dieu avait voulu pour l'homme, nous, avant la chute. Pour que nous puissions marcher avec autorité et être victorieux sur l'adversaire. Victoire acquise par Jésus au prix de son sang. Alors maintenant que nous marchons par la foi, dans cette restauration et l'obéissance à Dieu, nous pouvons proclamer de notre bouche, avec foi, à l'ennemi de nos âmes, à chaque fois que nous sommes attaqués, moi et ma famille sommes couverts par le sang de Jésus. Proclamer. Tu as été vaincu à la croix, ennemi de nos âmes, par le sang de Jésus. Alors arrière de moi. Proclamer. À cause du sang de Jésus, tu ne peux plus me toucher. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Par son sang, je suis sauvé. Par son sang, je suis guéri. Par son sang, j'ai la vie. Et les trois sont indissociables. Je dis bien, les trois sont indissociables. Tout comme nous sommes, nous, corps, âme et esprit, indissociables. Nous sommes indissociables. Eh bien, c'est pareil. Ce que Jésus a fait, par son sang, je suis sauvé pour mon âme. Mon âme est sauvée. Je suis guéri, mon corps. J'ai la vie de l'esprit. Les trois sont indissociables. Je ne peux pas dire, oui, je crois bien que je suis sauvé, mais guéri, la vie de l'esprit. Non, non, les trois sont liés. Le sang de Jésus a été versé afin que nous ayons les trois bénédictions. Je suis sauvé, guéri, j'ai la vie. Et sommes-nous prêts à proclamer cela avec foi? Sommes-nous prêts à proclamer cela avec foi? Parce que vous savez que proclamer, c'est donner vie à notre foi. Si je ne proclame pas, je ne donne pas vie à ma foi. Ma foi reste inaudible. Tout ce que nous ne proclamons pas, et tant que nous ne proclamons pas, rien ne se produit. Tant que nous ne proclamons pas, rien ne se produit. Tout le monde a lu Genèse, premier chapitre, quand Dieu créa tout. Dieu dit, Dieu proclama, que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc le résultat est bien issu de la proclamation de Dieu. Ben nous, c'est pareil. Sans proclamation, pas de résultat. Et puis donc, dans Genèse, cette fois, Dieu proclama, Dieu dit, cette fois. Mais attention, nous ne pourrons résister au diable, c'est-à-dire le chasser loin de nous, que si nous sommes soumis à Dieu. C'est un élément essentiel. Jacques 4, 7. Jean 9, 31 nous dit aussi, nous savons, je suis un petit peu, voilà. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, c'est-à-dire les pécheurs, c'est qui ? Ce sont ceux qui restent dans leur péché, sans repentance, malgré la connaissance qu'ils ont du salut. Nous savons que ceux-là, Dieu ne les exauce pas. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc soyons vigilants. La moindre place que nous laisserons volontairement au diable dans notre cœur, il la prendra. Et Dieu ne pourra pas nous exaucer. Et ce sera quelque part faire peu de cas du sang de Jésus. C'est seulement avec un cœur purifié, on l'a vu, couvert par le sang de Jésus, et en le proclamant, que nous pourrons résister au diable et qu'il fuira loin de nous. Amen. La parole de Dieu est un tout. N'en retenons pas seulement ce qui nous convient. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité et réfuter l'erreur. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité et réfuter l'erreur. 2 Timothée 3,16. On vient de parler de la parole de Dieu, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors justement, la parole de Dieu, c'est l'autre clé. Jésus est la parole. Il nous a dit que celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père. Jean 1, 14. Il est la parole est devenue homme. Autre verset qui confirme cela, Apocalypse 19, 13, 15. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sur son vêtement un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc pas de doute, Jésus est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est la parole. Et Jésus, ayant tout connu, il n'y a pas de situation humaine où la réponse n'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de situation humaine où la réponse n'est pas dans la parole de Dieu. À nous d'aller la chercher. La méditer, puis dans nos prières, de se l'approprier, de la faire nôtre, de la citer, de la proclamer, d'y placer notre foi, aussi spontanément que le ferait un enfant, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, dit Matthieu 19, 14. Alors proclamons la parole de notre bouche, sur notre situation, en y plaçant toute notre foi, c'est notre part. Proclamons la parole de notre bouche sur notre situation. En y plaçant toute notre foi, c'est notre part. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est plus de notre ressort, mais c'est de celui du Saint-Esprit. À nous de lui faire confiance et d'être patient, car Dieu est souverain. Dieu reste souverain. et surtout de ne jamais oublier de remercier notre Dieu d'avoir pris en charge notre situation avec action de grâce, dira Paul dans Philippiens 4:6. Je demande, j'exprime mon besoin, je m'appuie sur la parole, je m'appuie sur les promesses du Seigneur, je proclame, et Saint-Esprit œuvre. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je remercie. Merci Seigneur pour ta promesse sur laquelle j'ai pu m'appuyer, pour ton esprit qui prend en charge mon besoin à partir de la parole que j'ai proclamée. Amen. C'est une démarche pratique, ça. C'est pas compliqué. C'est compliqué? Non. On voudrait que ce soit plus compliqué. On voudrait. On voudrait parfois en faire plus. Faire. Devant une situation difficile, notre réflexe humain est trop souvent de vouloir combattre, prier avec nos propres paroles, sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Parfois avec un flot de paroles, pour masquer notre manque de foi. On y va, là-bas. D'agir avec nos propres moyens. Alors dans ce cas-là, le Seigneur nous répond, écoute, ou je m'en occupe, ou tu t'en occupes de ton affaire. Et si tu t'en occupes, n'attends rien de moi. Alors laissons le faire et restons à son écoute, notre part à nous. Et mettons notre confiance dans la parole, c'est-à-dire en Jésus. On a vu que Jésus était la parole. Donc mettons notre confiance dans la parole, c'est-à-dire en Jésus. C'est ainsi que Jésus nous parle, dans la parole. J'entends parfois, certains me dire, Dieu ne me parle jamais. Jésus ne me parle jamais. Il nous parle. Beaucoup. Il nous parle dans la parole, entre autres. C'est en cela que la parole est vivante et efficace. Il est dans la parole. Il est la parole. Il est donc tout proche de nous. Parfois, certains me disent aussi, ou j'entends dire, oh, tu es loin de moi en ce moment. Il est loin de moi. Non ! Il est tout proche de vous. Il est là. Dans la parole. À nous d'aller le rencontrer dans cette parole. C'est pas loin, hein. C'est juste là. C'est tout de même plus enthousiasmant de nous dire « je vais rencontrer Jésus dans la parole » que de simplement se dire « je vais lire la parole ». Non. Lire et méditer la parole, c'est une rencontre avec Jésus. C'est lui dire « je viens te rencontrer, parle-moi, je t'écoute ». Amen. Et alors, la parole proclamée, elle devient l'épée de l'esprit. Le point de départ, c'est la parole, je la proclame, et elle devient l'épée de l'esprit. Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Éphésiens 6:17, dans la parole vivante. Notre arme pour la victoire dans la bataille, l'adversité, est décrite comme l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce qui signifie que la parole de Dieu, quand elle sort de notre bouche avec foi, notre part, le Saint-Esprit s'en saisit, sa part, et elle devient une arme redoutable contre laquelle Satan n'a aucune défense. Quand nous citons la parole de Dieu avec autorité, l'autorité que Jésus nous a donnée, nous triomphons de l'adversaire dans nos vies. Mais faut-il proclamer la parole, la proclamer et dire, c'est moi le patron, hein, toi, tu as été écrasé à la croix par Jésus. Si Jésus a versé son sang à la croix, c'est là que tu as été vaincu. Jésus t'a écrasé. Moi, aujourd'hui, je suis ambassadeur pour Christ, ambassadeur de Christ. J'ai l'autorité. Toi, non. Le sang de Jésus t'a vaincu. Et je m'appuie sur la parole de Jésus. Le sang, la parole. N'oublions pas donc que notre combat est spirituel et que les situations doivent d'abord être déliées dans les cieux en invoquant le sang de Jésus et proclamant la parole et les promesses de Dieu pour que ces situations se résolvent sur terre, donc en nous, en chacun de nous. Ce que tu délieras sur terre aura préalablement été délié dans les cieux, Matthieu 16, 19, dans la version second 21. Alors, en proclamant la parole, eh bien, nous témoignons aussi de Jésus. Nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur lui, l'accusateur, par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Apocalypse 12, 11, Nouvelle Français Courant. Nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Ils ont vaincu par la parole. Quand nous arrêtons de parler de nos problèmes, de nos ressentis, de nos peurs, de nos craintes, etc., et que, avec foi, nous commençons à dire ce que la parole de Dieu dit de notre situation, nous sommes vainqueurs. Rappelons-nous que le fondement de la foi, c'est la parole. Alors pour connaître la parole et les promesses de Dieu, en toutes circonstances, et pouvoir les proclamer, il est bien sûr nécessaire que nous lisions, étudions, méditions cette parole, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de Jésus. Je ne vais pas simplement lire la parole. Donc je vais à la rencontre de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître. Alors quand nous n'avons qu'une petite mémoire comme moi, il existe aussi des livres regroupant les promesses de Dieu pour toutes les situations que nous pouvons être amenés à vivre. Notre libraire saura vous conseiller à ce sujet. Que ces aides ne nous empêchent toutefois pas de méditer régulièrement la parole qui apporte la victoire. Amen. Car oui, la parole apporte la victoire et ne peut retourner sans effet. Je vous ai écrit, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, et ainsi vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2,14 dans la parole vivante. La parole de Dieu demeure en vous, et ainsi vous avez vaincu le malin. C'est un constat, hein ? Et c'est bien entendu valable pour tous les chrétiens, jeunes et moins jeunes. C'est pas parce que Jean dit jeune chrétien. On peut être jeune chrétien à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors oui, la parole ne peut retourner sans effet. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 11. Soyons donc convaincus que lorsque nous proclamons la parole de Dieu et non la nôtre, avec foi et autorité, la parole, c'est notre clé. Elle provoquera par le Saint-Esprit un travail en nous et dans celui qui la reçoit, celui à qui nous l'annonçons. Ainsi, on voit à quel point il est essentiel de connaître la parole, de posséder cette clé qui nous est offerte, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi utiliser cette clé. autrement dit citer et proclamer dans nos prières la parole de Dieu face aux situations que nous rencontrons. C'est une clé de victoire. Prenons exemple sur Jésus. Dernier exemple, on va prendre. Rappelons-nous lorsqu'il fut tenté par le diable, par 3 fois dans le désert, au début de son ministère. Il fut tenté de 3 façons. D'abord dans son corps, puis dans son âme, puis dans son esprit. Et à chaque fois, il répondit comment ? Par la parole. Il est écrit par la parole adaptée à la situation. Ce n'était pas une parole à côté de la plaque. C'était à chaque fois une parole adaptée à la situation. Alors si Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, notre modèle, a jugé nécessaire d'agir ainsi, faisons de même. Ce serait bien présomptueux de notre part de vouloir faire différemment. Usons avec foi, du « il est écrit », notre clé, la parole de Dieu, proclamons-la sur nos difficultés, sur lorsque nous prions pour un frère ou une sœur aussi, par rapport à un besoin, etc. Vous remarquerez aussi une chose dans les évangiles, c'est que Jésus a toujours été très sobre dans ses prières. Vous avez jamais remarqué ? Très sobre. C'était quelques paroles, pas de longs discours. Les apôtres ont fait de même en prenant modèle sur lui. Ils ont toujours très simplement utilisé l'autorité du nom de Jésus, comme vous pouvez le voir dans Actes 4, 29, 31, je vous laisse le lire, au travers des clés qui leur ont été données par Jésus, à savoir le sang de l'agneau et la parole dans laquelle Jésus est présent, car il est la parole. C'est aussi cela, prier au nom de Jésus, quand nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique que de prier au nom de Jésus. Ce n'est pas un sésame ouvre-toi. Ce n'est pas un abracadabra. Non. C'est d'abord se dire, est-ce que Jésus ferait cette prière ? C'est déclarer qu'il est notre maître et c'est discerner dans le nom que nous prononçons le sang de l'agneau et la parole vivante qui, proclamée, donne la victoire lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas utiliser ce nom pour valider nos propres paroles ou accomplir nos désirs. Ce serait en vain. Vous lirez ce sujet de Deutéronome 5.11 pour ceux qui le veulent. Voici, on l'a vu. Non. Voici donc les clés du royaume des cieux, les clés de la victoire dans notre combat, pas contre les hommes, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes, à savoir le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, et la parole de Dieu, Jésus est la parole, avec lesquels les frères et sœurs ont vaincu l'accusateur, le malin, et par lesquels le salut et la restauration sont arrivés, c'est-à-dire les âmes déliées, rachetées, restaurées. C'est ce que dit la Bible, et je répète, le sang de Jésus, les clés du royaume des cieux, les clés de la victoire, c'est le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, et la parole de Dieu, Jésus est la parole, avec lesquels les frères et sœurs ont vaincu l'accusateur, le malin, et par lesquels le salut et la restauration sont arrivés, c'est-à-dire les âmes déliées, rachetées et restaurées. Amen. Soyons bénis et utilisons ces clés qui nous ont été données, ne les gardons pas dans les poches, hein, mais elles sont là pour être utilisées, pour ouvrir ce qu'il y a à ouvrir, pour répondre aux besoins, pour répondre aux situations difficiles. S'appuyer sur la parole de Dieu, c'est essentiel. Car dans la parole est la vie. Dans la parole est la victoire. Dans le sang de Jésus est la victoire. Amen.